Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello, hello, chers amis, ici Pauline Aignot et vous êtes sur une leçon du gratin. Ces fameuses leçons où je passe un moment avec vous, on discute pendant une vingtaine de minutes de vos enjeux du moment. C'est assez souvent entrepreneurial, mais pas que. Et c'est le cas aujourd'hui avec Esther qui a créé depuis maintenant 6 ans quand même Belle comme un camion. Alors déjà, je trouve le nom trop cool. Allez voir son site, Belle comme un camion, c'est quoi? C'est un truc de produits de beauté, enfin de produits plutôt de services de beauté. Vous êtes en entreprise et vous voulez faire appel à Belle comme un camion, et ben contactez-la, je vous mets tout ça dans les notes de l'épisode. Esther se développe bien, mais souhaite passer à l'étape d'après, et notamment avoir des franchisés. Donc elle souhaite devenir elle-même franchiseur, créer un concept, elle a créé ce concept et elle souhaite le développer. Et c'est pour ça qu'elle me pose la question suivante: comment faire pour attirer des franchisés en communiquant le plus possible avec du contenu intéressant, tout en ne dévoilant pas tous les secrets et clés de réussite? Parce que vous l'aurez compris, ce qui fait peur à Esther, c'est de trouver des franchisés, mais des franchisés qui sont réellement intéressés à l'idée de convertir et donc de devenir franchisé pour elle, et pas juste des personnes qui sont en train d'essayer de prendre des informations pour ensuite la copier et faire exactement la même chose à leur sauce. Parce qu'Esther reçoit beaucoup de demandes de potentiels franchisés, mais malheureusement, elle a peur que ça ne se concrétise pas à chaque fois et que ça soit plus, on va dire, des personnes qui essayent de la copier. C'est un épisode que je trouve très intéressant, déjà parce que je parle peu de franchises sur le gratin, ce que je trouve toujours dommage. Je trouve que c'est un concept vraiment intéressant et je vous invite d'ailleurs, on en parle dans l'épisode, à écouter l'épisode que j'avais fait à ce sujet avec trois pontes, super pontes même français du monde de la franchise. Et d'autre part, parce qu'on est rentré finalement dans plein de détails, je trouve assez intéressant avec Esther, qui ne s'adresse pas du tout au monde de la franchise, mais simplement à comment réussir à être différencié. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Salut Esther!
Bonjour Pauline!
Je suis ravie de t'accueillir avec moi. J'espère que tu vas bien, d'abord.
Oui, très bien. Je suis ravie d'être là avec toi aussi.
Super, écoute. Esther, est-ce que tu peux me dire qui tu es? Déjà, te présenter un peu et puis ensuite, j'aimerais bien que tu m'expliques. Donc, quelle est ta question? Qu'est-ce qui t'amène sur cette leçon du gratin?
Oui, alors, donc c'est Esther. J'ai 31 ans. Je travaillais dans la pub à l'époque et il y a à peu près 7 ans, j'ai eu envie de tester l'entrepreneuriat, on va dire, et j'ai donc effectué une reconversion professionnelle pour ouvrir un beauty truck, et donc ça va faire maintenant 6 ans que j'ai créé Belle comme un camion.
Belle comme un camion, le nom est génial, déjà.
Merci.
Alors, explique-moi, qu'est-ce que c'est qu'un beauty truck pour les non-aficionados?
Alors, donc, en fait, tout simplement, c'est un peu le même fonctionnement qu'un food truck qu'on connaît plus. Sauf que là, au lieu de proposer des services d'alimentation, je vais plutôt proposer des services de beauté. Donc, à la base, l'idée, c'était vraiment de proposer ça aux salariés en entreprise. Donc, me mettre sur les parkings d'entreprise et proposer ça pendant leur pause. Et ensuite, forcément, j'ai développé tout un côté événementiel aussi autour du camion.
Trop cool. Et donc, tu es basée à Paris, en Ile-de-France?
Pas du tout, je suis dans le sud de la France, moi, je suis vers Nice.
Comme ça, on saura. Nice, très belle ville. Bah écoute, beaucoup de chance à celles qui habitent à Nice et qui pourront bénéficier de Belle comme un camion. Et donc, Esther, ça fait quand même 6 ans que tu fais ça, mais qu'est-ce qui t'amène ici sur cette leçon?
Voilà, donc justement, on parlait de Nice, donc mon but, c'est quand même, enfin, dès le début, j'avais quand même cette idée en tête de me dire, bon, je vais tester ça, et si ça fonctionne, ce serait super d'avoir plusieurs camions un peu partout en France. Et l'idée, c'était de pouvoir le proposer sous forme de franchise slash licence de marque, mmh. et de permettre à d'autres filles de lancer ce concept et de les accompagner comme j'aurais aimé qu'on m'accompagne quand je me suis lancée là-dedans, en fait.
Très cool. Et du coup, donc là, tu cherches à recruter des franchisés concrètement pour t'aider à développer le concept de Belle comme un camion un peu partout en France et ailleurs.
Oui, voilà. Exactement, ouais, c'est ça, c'est de se copier sur le modèle que j'ai fait et de pouvoir en faire d'autres un peu partout en ayant déjà les clés, on va dire, de réussite que j'ai pu tester, quoi. Voilà.
Très cool. Bah, écoute, je sais pas si tu avais entendu que j'ai fait un épisode d'ailleurs dédié à la franchise parce que c'est une forme d'entrepreneuriat que je trouve particulièrement intéressante. Alors, je parle pas forcément du franchiseur qui est ce que tu es, c'est-à-dire la personne qui crée le concept. Ça, c'est très intéressant, bien sûr, mais c'est en fait très difficile. Il faut quand même le dire parce oui. qu'il faut créer un concept. Et ensuite, non seulement créer un concept, mais trouver des franchisés pour le développer. Ça a plein de vertus parce que, bah, du coup, une fois que t'as le concept, tu peux quand même trouver des autres entrepreneurs qui vont t'aider à développer ton activité et donc il y a des success stories, bah, évidemment on pense à McDonald's mais bah, Big Fernand, enfin beaucoup dans le foot d'ailleurs, d'entreprises qui sont développées avec une vitesse absolument colossale en tant que franchiseur parce qu'en fait finalement le financement se fait grâce à des franchisés, donc par rapport à d'autres business où tu es obligé de beaucoup trouver d'investissement, là finalement c'est chaque personne qui va posséder une petite partie, enfin sa propre entreprise finalement qui va financer cette activité. Et donc c'est vrai
Exactement.
Que c'est un business model en fait entrepreneurial vraiment très intéressant. Mais j'avais fait cet épisode aussi parce que finalement je trouve que le monde du franchisé est très intéressant aussi. Donc le franchisé c'est celui qui va développer le concept existant de quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce qu'en fait je trouve que quand tu deviens entrepreneur il y a déjà tellement de choses à imaginer. Tout le monde n'a pas forcément une idée et ça permet en fait tout simplement je trouve de faire ses armes et d'apprendre l'entrepreneuriat réellement, mais en étant adossé à une boîte existante qui a déjà fait ses preuves. Et ça, c'est quand même énorme. Ça n'enlève rien à la difficulté de l'aventure, hein. Ça reste quand même de l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai que ça t'enlève quand même une partie non négligeable quoi, du boulot. Donc, j'étais hyper contente de faire cet épisode à l'époque. Je ne sais pas si tu avais eu l'occasion de l'écouter. Il y avait pas mal de beau monde.
Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, c'était très intéressant. Je l'ai même réécouté plusieurs fois. Donc, oui, non, j'ai vraiment aimé et ça m'a beaucoup aidé. Néanmoins, il restait quelques questionnements parce que forcément, après, en fonction des activités que l'on a, c'est un peu différent. Et je vais en venir à ma question, enfin, à mes questions, on va dire, générales. Mais c'est vrai que par rapport à tout ça, c'est vrai que j'ai un concept un peu particulier qui change un petit peu et du coup je reçois beaucoup d'appels et de demandes qui vont les personnes vont être intéressées, vont me poser pas mal de questions et c'est vrai que derrière ça va pas forcément concrétiser. Donc ça c'est une première difficulté.
Des personnes qui sont intéressées par ton concept et ça potentiellement des franchisés mais qui vont pas jusqu'au bout.
Oui. Exactement, c'est ça. Donc bon, ça à la limite, c'est le jeu, on va dire. Donc il y a pas de souci. Mais après, en fait, là où je coince un petit peu par mon manque d'expérience là-dedans, ça va être vraiment. Elles vont me poser beaucoup de questions, notamment des questions techniques qui sont assez poussées. Et du coup, le fait d'y répondre, ça fait un peu partie de ce que
D'accord.
je vends, quoi. Donc c'est un peu délicat de juste donner toutes ces informations là à la première personne qui m'appelle alors que moi ça a été des années de recherche pour obtenir ces réponses là. Donc je suis un peu partagée entre le fait de bien sûr vouloir accompagner au maximum des personnes mais derrière forcément il faut que ce soit un business qui fonctionne et que ce soit rentable quoi. Voilà.
Ouais, bien sûr. C'est un peu je vois ce que tu veux dire. Enfin, je sais pas si tu as vu ce film assez formidable qui s'appelait The Founder. Qui est un film assez récent d'ailleurs, qui doit avoir 4 ans, je crois, avec, comment s'appelle cet acteur bref, Michael Keaton. Michael Keaton qui joue le rôle du fondateur, enfin justement qui n'est pas le fondateur, mais qui est le franchiseur
de McDonald's.
Oui, et en fait, je t'en parle parce que bon, déjà c'est un film à voir et il est absolument génial, surtout si tu t'intéresses au secteur de la franchise, il est absolument phénoménal.
Carrément.
Et en plus, et je dis ça à toi, mais à toutes les personnes qui nous écoutent, il vaut vraiment la peine si vous êtes entrepreneur, franchement c'est un très très bon film. Et d'autre part, ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est qu'en fait on se rend bien compte que effectivement le rôle du franchiseur et sa grande difficulté au-delà de faire le concept, c'est de trouver les bonnes personnes. Et là, ce que je trouve très intéressant dans ce film, en l'occurrence, c'est qu'il a identifié qu'il y a un type de personne qui correspond exactement, en fait, à ce qu'il veut, parce que ce sont des personnes qui sont, qui peuvent passer beaucoup de temps sur place. McDo, bah, c'était ouvert, enfin, toute la journée. Il fallait faire les courses le matin, j'imagine. Enfin, tu vois, il y avait beaucoup de temps à passer, etc. Le soir, ça allait jusqu'à tard. Et il fallait qu'il y ait une ambiance familiale. Et donc, en fait, ils expliquent dans le film qu'il a fini par trouver des jeunes couples et qu'à l'époque, ça se faisait assez peu, finalement, d'avoir des jeunes couples qui travaillaient ensemble, hommes et femmes. Et que finalement, c'était ce duo qui était pour lui le duo gagnant, parce qu'en fait, ils étaient la femme plutôt peut-être sur la partie commerciale, tu vois, à faire les commandes, à s'occuper que tout soit nickel, avoir un goût esthétique, etc. Sans faire de, tu vois, généralité, mais c'était apparemment pas mal comme ça. Et puis l'homme qui était plutôt en train de gérer les mecs au fourneau et de faire en sorte que l'approvisionnement soit là en temps et en heure. Et je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, finalement, on n'y pense pas trop, mais il a réussi à trouver, et ça, moi, pour l'avoir lu en me renseignant sur l'histoire de McDonald's, ça fait partie apparemment du succès. C'est-à-dire qu'au début, une des grandes difficultés qu'a connue McDo, c'était justement de trouver les bonnes personnes qui accepteraient, alors que l'entreprise n'était pas connue. Enfin, tu vois, McDo à l'époque, c'était rien. Il y avait une seule boutique, si tu veux. Et réussir, si tu veux, à trouver des personnes qui auraient un intérêt à développer des franchises. Et pour ça, en fait, il y avait des personnes qui étaient intéressées par l'entrepreneuriat, ça c'était un premier critère. Il y avait des personnes qui devaient avoir quand même un apport financier. Et en l'occurrence, il avait vraiment focalisé son attention plutôt sur des couples. Et donc, typiquement, c'est raconté dans le film de manière un peu ludique. Il faisait énormément de... Il allait dans tous les country clubs locaux pour rencontrer des jeunes couples un peu bon chic, bon genre, tu vois, en leur proposant cette aventure. Alors, je sais pas si c'est exactement comme ça que ça s'est fait. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, de la même manière que quand on vend quelque chose, on cherche un client, là, finalement, c'est franchisé, c'est tes clients. Tu fais du B2B.
Oui, oui, ah, complètement. Complètement, ouais. Oui. Et ça fait partie de la difficulté, justement, d'identifier, on va dire, la bonne cible et de la trouver par la suite, quoi.
Ouais, ouais. Et d'après ce que je comprends, là, les personnes qui t'ont contacté, c'est des femmes, c'est ça, qui sont peut-être elles-mêmes entrepreneurs ou quel type de...
Oui, alors souvent c'est des esthéticiennes, on va dire, qui exercent déjà le métier. C'est vrai qu'au tout début, quand j'avais lancé l'idée de franchiser, je m'étais plutôt identifiée, moi-même en fait, je m'étais dit quelqu'un qui a envie de changer un peu de vie et de faire une reconversion professionnelle. Et donc je m'étais dit c'était plutôt ça ma cible. Et finalement, c'est vrai que je suis plutôt contactée par des esthéticiennes. Donc effectivement, par rapport à ce que tu me dis.
D'accord. Bon, ça m'étonne pas, ceci dit, qui sont passionnés par le métier. Mais là, c'est elles qui te contactent, donc peut-être que c'est pas une démarche proactive, tu vois, de ta part, que c'est plus elles, en fait, comme elles ont une appétence pour le monde de la beauté, en fait, qui spontanément sont intéressées, ce qui est cool, hein, et c'est franchement un truc intéressant, mais peut-être qu'il y aurait d'autres pistes à creuser, peut-être que c'est celle-ci qui est la bonne. Une question que j'ai pour toi, c'est quel est finalement le frein principal qui fait qu'elles ne passent pas à l'acte? Est-ce que c'est parce que c'est trop, entre guillemets, trop cher? Enfin, quelle est, tu vois, l'objection principale qu'on te fait quand on te contacte, on commence à s'intéresser, au-delà des questions techniques que tu m'évoquais, qui fait que finalement, ça ne se concrétise pas?
Justement, c'est une des interrogations que j'ai, mais je pense que principalement, au niveau du prix, non, parce que à chaque fois que j'en parle, même autour de moi ou même avec d'autres esthéticiennes, on est toutes d'accord pour dire que c'est un investissement complètement réalisable. Mais c'est plus en fait de se dire, maintenant que j'ai posé mes questions et que j'ai réponse, je me lance toute seule, quoi. Ça va plutôt être ça.
C'est la peur de la solitude, en fait, c'est ça.
Non, en fait, c'est qu'elles, elles vont se lancer toutes seules sans faire partie de la franchise.
Ah,
oui. Elles vont juste
d'accord.
se dire, maintenant l'idée, on a les premières questions qu'on se posait. Et donc, en fait, maintenant, elles se lancent toutes seules, quoi. Voilà.
Et donc, peut-être que dans ce cas, le problème, c'est comme c'est des personnes qui ont l'expertise, elles n'ont pas besoin de toi, finalement. Elles n'ont pas besoin de toi pour l'instant parce que ta marque est peut-être pas encore suffisamment puissante, tu vois, pour qu'elles se disent ça va attirer du monde. Parce que maintenant, quand on devient franchisé McDo, on le fait probablement pas parce qu'on est intéressé par les frites et les hamburgers, mais parce que en fait, on se dit McDo c'est une marque super connue, il va y avoir forcément des clients et du coup, ça va être un bon moyen de faire du business. Si je reprends cet exemple, je suis désolée de faire le parallèle avec McDo, mais c'est tellement emblématique en fait et ça a été un tel succès que je pense que c'est intéressant de s'en inspirer. Là, si je reprends l'exemple de notre jeune couple. couple, le jeune couple ne connaissait rien au monde de la restauration en général. C'était des personnes qui n'étaient pas des entrepreneurs, qui avaient envie de vivre une aventure à deux, mais qui ne connaissaient pas le secteur et qui du coup avaient besoin de McDonald's parce qu'en fait, McDonald's allait leur donner des process, allait leur donner un cadre, allait leur donner les recettes, tout simplement. Et toi, du coup, c'est vrai que là, quand on en discute, hein, mais après, je sais pas si c'est un bon raisonnement, j'ai l'impression qu'en fait, les esthéticiennes ont l'impression qu'il n'y a pas suffisamment de barrières à l'entrée si on utilise des mots un peu business et qu'elles peuvent le faire toutes seules. Peut-être que du coup, il y a une question qui se pose et il faut que tu vois la réalité en face qui est-ce que effectivement il y a suffisamment de barrières à l'entrée à ton business, auquel cas bah peut-être qu'il faut que tu réfléchisses, tu vois, à un concept encore plus poussé qui fasse qu'elles ne pourront pas le faire toutes seules. Et à ce moment-là, ça peut peut-être t'ouvrir une piste énorme qui est que toutes les esthéticiennes, quand elles te contacteront, n'auront pas le choix d'une certaine manière. Alors ça peut être le cas si tu as une marque forte. Parce qu'en fait, ça, c'est une barrière à l'entrée. Le problème d'avoir une marque forte, c'est que ça prend du temps, crois-moi. Je sais de quoi je parle de la construire. Donc, tu peux te dire ça, mais dis-toi que ça va être un investissement très long avant que ça ait son effet. Mais ça peut être peut-être d'autres choses, tu vois. Ça peut être une technique particulière coupe de cheveux, je connais pas suffisamment tes produits, mais quelque chose qui fait que tu vas réussir.
Oui,
il y a un exemple de boîte américaine, je crois, qui s'est développée sur le modèle de la franchise que tu connais peut-être de nom, mais dont tu pourrais certainement t'inspirer parce que visiblement ils ont réussi à le faire, qui s'appelle Dry Bar. Je sais pas si tu en as entendu parler.
Ah non, ça me... Ah, c'est pour des coupes de cheveux express un peu, c'est ça?
Voilà, exactement. Oui. Donc c'est différent, hein. C'est pas exactement ton univers, mais donc c'est un succès assez phénoménal aux États-Unis d'une femme qui était elle-même coiffeuse et qui s'est dit, mais en fait, plutôt que d'aller systématiquement chez le coiffeur pour se faire laver les cheveux, etc., j'ai pas besoin de me faire laver les cheveux, j'ai juste un brushing, en fait. Et donc, les Américaines, vous savez, adorent les brushings, ont toujours des coupes impeccables par rapport à nous, Françaises. Et donc, en fait, elle a créé le concept de dry bar qui est, tu te fais faire juste le séchage, en fait, le brushing. Et ça, elle l'a développé via franchise. Je ne sais pas qui sont les personnes qu'elle a réussi à débaucher pour créer des franchises, mais il y a fort à parier, si tu veux, qu'elle a été confrontée à la même problématique que toi. Donc, ça serait intéressant typiquement de savoir, tu vois, si c'était des esthéticiennes ou finalement si c'était autre chose. Peut-être que c'est que ton incentive n'est pas suffisant et qu'elles ne vont pas gagner suffisamment d'argent, tu vois, avec ton concept. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir. Soit il n'y a pas suffisamment de barrières à l'entrée de ton côté et c'est pour ça qu'en fait, elles veulent le faire de leur côté et ça me paraît assez vraisemblable. Soit si tu veux complètement... Tu estimes qu'en fait, tu n'arriveras jamais à créer, on va dire, un concept qui est tellement différencié que finalement les esthéticiennes ne pourront pas le faire, à ce moment-là, peut-être essaye de trouver d'autres types de personnes, tu vois, des entrepreneurs, des femmes par exemple, qui veulent effectivement se reconvertir et peut-être que ces personnes-là, tu peux aller les trouver via d'autres réseaux et sortir, tu vois, du monde de l'esthétique qui en fait connaît déjà, si tu veux, ces techniques et qui n'aurait d'une certaine manière pas besoin de toi et de ton concept pour le faire.
Oui. Oui, c'est vrai que, moi, je m'étais plus basée sur le fait que, voilà, être esthéticienne, c'est une chose, mais après, autour d'un beauty truck, il y a vraiment tout un réseau de com qui se fait, toute une démarche, toute une image à créer, justement, pour que ce soit moi, ce que je vends, voilà, c'est vraiment tout un concept avec une image de marque, même si je suis pas ultra connue, mais en fait, je me différencie avec d'autres beauty truck, on va dire, par vraiment ce côté un peu à la mode qui va plaire aussi aux marques et qui vont vouloir...
Oui, c'est presque plus de l'événementiel, en fait.
Parce que il y a d'autres beauty... C'est ça, c'est un peu des deux, mais justement, mon but, c'est vraiment de pouvoir aider les filles en les accompagnant pour créer ce concept, en fait, qui est en quelque sorte hybride, en fait, qui va plaire autant aux particuliers pour faire leurs soins que aux professionnels pour les proposer sur des événements, quoi. Voilà.
Bah, tu vois, ce qui est intéressant dans ce que tu me dis, c'est que là, en fait, on est en train un peu de parler de ta plateforme de marque, qui est moins d'être l'experte absolue esthétique que un lieu sympa, événementiel, cool, qui rassemble des gens autour de la beauté, d'accord, mais aussi d'un bon moment où on prend soin de soi. Et dans ce cas, j'ai pas envie de dire qu'on n'est pas obligé d'être esthéticienne pour pouvoir apporter ça. C'est sûr que ça a une valeur... C'est une valeur ajoutée certainement, mais tu vois, tu peux peut-être toi avoir de la valeur ajoutée à trouver des personnes qui ont envie d'une aventure entrepreneuriale, qui aiment la beauté. Il y a énormément de femmes quand même qui sont vraiment, c'est le secteur, je trouve, où il y a vraiment beaucoup de passionnés, mais qui sont pas non plus formées, qui n'ont pas été jusqu'au bout justement des études pour faire ça et qui donc auraient à apprendre de toi. C'est peut-être un angle intéressant pour les recruter.
Oui, complètement. C'est vrai que je m'étais un peu éloignée parce que c'était mon idée de base, en fait, justement, de proposer ça à des personnes qui se reconvertissent dans ce secteur, justement, comme tu dis, parce qu'elles sont passionnées de beauté. Et puis, comme j'ai reçu beaucoup de demandes d'esthéticiennes, bah, je me suis éloignée de cette première idée en me disant, bah, non, en fait, ça attire des esthéticiennes, donc, je vais cibler plutôt les esthéticiennes, mais c'est vrai que je me suis éloignée de l'idée de base et en fait, il faudrait que j'y retourne et que je trouve, comme tu dis, un moyen de rentrer en contact avec ces personnes-là, quoi.
Bah, en tout cas, tu peux le tester. Et ce que je trouve assez cool, et je sais pas si tu avais suivi ma formation sur l'art de la vente sans vouloir faire de pub dessus, mais où j'explique justement très précisément comment cibler un prospect. Et en l'occurrence, ce que je trouve intéressant, c'est que toi, si jamais tu te rends compte que la femme que tu vises, c'est moins une esthéticienne qu'une femme qui se pose des questions, qui veut un concept, ce dont je parlais au début sur l'idée de la franchise même, qui n'est pas ni entrepreneur, ni une professionnelle de la beauté, mais qui veut une aventure, qui veut vivre quelque chose d'intense, qui veut donner du sens à son job tout simplement. Enfin, ça, la bonne nouvelle, c'est que tu peux lui apporter. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que ces femmes-là, je pense que c'est pas facile à trouver, mais tu vois, tu peux avoir des indices, te dire, en fait, des femmes qui sont en reconversion, où est-ce que je peux essayer de les trouver? Il y a plein de réseaux, tu vois, de reconversion qui existent. Il y a mon podcast où il y a beaucoup de femmes qui sont en reconversion, qui l'écoutent. Enfin, il y en a plein d'autres aussi. Il y a certainement des associations, il y a des clubs, tu vois, des choses comme ça. Et du coup, ça pourrait te donner un angle assez intéressant pour réussir à les démarcher, ou en tout cas pour réussir à faire de la publicité ciblée. Quand je dis publicité, c'est pas forcément, tu vois, payant, mais juste, faire un peu des relations publiques, expliquer que tu existes, peut-être offrir à certains de ces réseaux de femmes en reconversion, tu vois, une prestation de ton camion. Ça peut être peut-être un très très bon moyen, tu vois, de réussir à les cibler efficacement. Alors que là, j'ai l'impression que tu es plus en mode un peu réactif, c'est-à-dire que tu as un concept qui plaît à cette cible d'esthéticienne parce qu'en fait elles-mêmes elles s'y connaissent et qu'elles ont envie du coup d'aller dans ce sens-là. Mais effectivement, aujourd'hui, t'es plus en réaction à des demandes entrantes qui n'ont pas l'air d'être. En fait, elles sont qualifiées bien sûr, mais elles sont pas qualifiées pour l'aventure entrepreneuriale. Elles sont plus qualifiées, en fait, on peut le dire, hein, pour te copier quoi. Donc c'est peut-être pas la peine que tu ailles dans ce sens quoi.
Oui, voilà, ouais, c'est pour ça que du coup je me retrouvais un peu bloquée où je voyais pas trop comment avancer et puis voilà et puis ma question après c'était ça, c'était justement moi j'ai envie de communiquer sur tout ça, sur l'aventure, sur bah là je suis en train d'ouvrir un nouveau camion pour une franchisée, mais c'est vrai que je me retiens un petit peu parce que je me dis bah plus j'en dis et plus toutes ces filles-là vont pouvoir juste bah, prendre des informations et le faire de leur côté quoi. Donc je suis toujours un peu partagée entre j'ai envie de communiquer là-dessus et en même temps c'est un peu mon petit secret. J'ai pas envie de crier de montrer à toute la planète comment je
Ouais,
procède quoi.
alors j'embraye quand même deux points. Déjà pour te dire, ce que tu me dis m'évoque, je sais pas si tu connais le réseau des beautypreneurs de Upset Housi. Donc Upset Housi, une
Oui,
plateforme
tout
que
à fait.
j'adore, qui est passée sur mon podcast et qui a créé donc un réseau justement de femmes qui vont donner faire de l'esthétique à domicile, si je comprends bien, et aussi proposer justement de vendre tous les produits de la ligne Upset Housi. Ce que je trouve très intéressant, c'est que si je me trompe pas, Upset Housi forme en fait justement ces femmes qui ne sont pas forcément à la base des esthéticiennes, mais qui sont plutôt justement des femmes en reconversion. Donc tu vois, elle a une approche qui est assez similaire à ce qu'on est en train d'évoquer ensemble, et j'imagine qu'elle a été confrontée au même problème que toi, encore que elle a le produit Epset aussi qui fait que
Eh
bon,
oui.
c'est une différenciation, mais elle est plutôt passée, d'après ce que je comprends, par des femmes en reconversion, et ça fait d'ailleurs partie, je pense, de sa mission en fait, que de vouloir aider des femmes à se reconvertir, à réussir à avoir un emploi, réussir, tu vois, à subvenir à leurs propres besoins et être indépendante financièrement. Donc elle y mêle en plus une dimension humaine assez intéressante. Et l'autre point que je voulais évoquer avec toi, c'était que par rapport à ce que tu me disais, donc sur cette différenciation, quoi, d'une certaine manière, le fait que tu aies des esthéticiennes qui te contactent et t'as pas envie qu'elles te volent, elles te volent l'idée, ce que je comprends complètement. Dis-toi que la plus grande barrière à l'entrée, c'est pas une recette magique, c'est pas, tu vois, la technique pour couper les cheveux et tout, c'est ta marque. Il faut que tu investisses sur ta marque, je sais que tu le fais, mais investis à mort sur ta marque. Ça prend du temps, ça va mettre 10 ans, je te le dis, c'est toujours plus long. Une fois, j'ai parlé à un grand homme d'affaires qui m'a dit, c'est simple, créer une marque, ça prend 20 ans minimum. Ça m'avait fait un petit coup à l'époque, je dois te dire, parce que ma boîte avait peut-être 3 ans, mais en fait, je pense qu'il a raison. Et bon, après, ce que ça veut dire qu'il y a une marque, c'est pas la même acception pour tout le monde, mais tout ça pour te dire que ça prend du temps et donc il faut que tu commences à investir dessus from day one. Donc dès maintenant, en fait, que tu créer une vraie charte graphique, que tu aies une histoire, qu'il y ait un storytelling autour de ta marque, que tu parles de ton aventure, parce que si jamais tu as une marque forte, tu seras irrattrapable et qu'à terme, même les esthéticiennes, au contraire, viendront te voir parce qu'elles sauront qu'elles voudront s'adosser à ta marque parce que c'est ça qui fera vendre. Donc vraiment, vraiment, ça, dis-toi que certes, aujourd'hui, c'est pas encore suffisant parce que ça prend du temps, mais il faut vraiment que tu prennes ton bâton de pèlerin et que tu commences à la construire, cette marque, dès à présent et que tu sois extrêmement exigeante et extrêmement... intentionnel, si tu veux, dans ton envie de construire une marque.
D'accord, oui, c'est vrai.
Je sens que je t'ai fait un petit coup avec les 20 ans pour construire une marque, là.
Oui, d'un coup, ça fait un peu mal, mais bon, je me dis, bon, ça fait déjà 6 ans. Allez, bah,
t'as déjà fait un quart, c'est pas mal.
Et puis non, mais effectivement, c'est vrai que ça a toujours été quelque chose qui était dans ma tête, enfin justement de développer ce côté marque, mais je me suis dit que c'était en ouvrant plein de camions que ça allait contribuer à justement cette image de marque.
C'est sûr. Mais il faudrait que tu sois vigilante.
Mais ça, l'un va pas sans l'autre, en fait. Oui, c'est ça. En fait.
Et il faudrait que tu seras très vigilante. Et c'est ça aussi toute la difficulté de la franchise. Hein. Tu pourras réécouter une 10e fois l'épisode sur la franchise. Mais en fait, si tu veux, le franchiseur doit être garant de la marque auprès des franchisés. Là aussi, je te reprends l'exemple de ce film sur McDonald's, où en fait, on voit bien que l'un des problèmes qu'a eu le fondateur, c'est qu'il y a certaines personnes qui se mettaient à vendre aussi des kebabs, des je sais pas quoi, enfin sortir si tu veux la marque un peu de son essence et que en fait du coup c'était en train de la détruire quoi, tout simplement. Et donc il faut être vraiment très très exigeant là-dessus et ça s'encadre via des contrats d'ailleurs, mais tout ça pour dire que en fait oui, avoir des franchisés va t'aider à la développer, mais en fait si tu veux être garant de la marque, c'est toi qui dois l'être et c'est toi en fait en tant que fondateur de cette entreprise qui doit vraiment vivre, penser, manger, dormir, respirer ta marque si tu veux.
Ouais, bah ça a été le cas. Après c'est vrai que il y a eu la crise et que d'un coup ça a été difficile de rester aussi focalisé là-dessus quoi. Mais on va repartir. Mais j'enchaîne sur une dernière petite question par rapport justement tu parles du film de McDonald's et c'est vrai que c'est un truc moi qui m'a frappé quand j'ai vu ça, c'est que justement les créateurs principaux, ceux qui ont vraiment créé le premier McDonald's, au final eux ils se sont fait piquer cette idée parce que justement ils avaient peut-être pas ce côté franchiseur et c'est un autre bonhomme qui a vu le potentiel que cette marque avait pour le développer. Et en fait c'est vrai que moi en tant que on va dire fondatrice d'une marque, ça fait peur parce que je me dis à tout moment j'ai quelqu'un qui va dire ah, mais c'est génial, moi j'ai plus de capacité pour franchiser, allez on va faire ça à côté quoi. Donc,
tout à fait, je pense que c'est une des vraies difficultés du métier. C'est pour ça qu'il faut avoir une différenciation, c'est pour ça que la marque compte. Je peux pas te dire que la concurrence ne sera pas rude, je peux pas te dire que des personnes ne vont pas essayer de te piquer ton idée, c'est la loi du marché. Enfin, si je te parlais de toutes les personnes jusqu'à encore il y a 2 semaines, si tu veux, qui littéralement pompent notre site de A à Z, limite reprennent texte tous les mots, ça fait partie du job si tu veux, et c'est pour ça qu'il faut tout le temps être le meilleur, c'est pour ça qu'il faut se battre, c'est pour ça qu'il faut avoir envie de se dépasser, c'est pour ça qu'il faut innover. En l'occurrence, les fondateurs de McDo, je ne les connaissais pas, mais d'après ce que je comprends du film, ils étaient très très focalisés sur leurs produits, sur ce restaurant. Ils n'ont pas vraiment eu d'envie de développement. Et le génie en fait de Ray Kroc, l'autre fondateur, donc le développeur en réalité de McDonald's, ça a été justement d'inventer le concept des franchises, puisque c'est vraiment lui qui l'a créé en fait, et de donner du coup cet essor de développement extrême à McDo, tout en gardant ce qui avait fait la magie du premier prototype, le prototype qui avait été créé par les frères McDonald's eux-mêmes. Toi, la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que d'après ce que je vois, t'es quand même plus business que d'eux, qui avaient l'air d'être très orientés produit. Toi, j'ai l'impression que t'as à la fois la vision produit, mais que t'as aussi la vision développement. Et donc, le fait même, si tu veux que tu me parles de ça et que t'en aies conscience, me fait dire que ça va aller.
Moi, je vais me battre.
Il va falloir que tu te battes et il va falloir que eux aussi, si tu veux, n'ont pas réussi parce qu'en fait, ils n'ont pas essayé de développer. Et donc, quelqu'un d'autre l'a fait à leur place. Toi, si tu essayes de développer, bon, bah, au moins, tu auras cet avantage, si tu veux, de prendre de la place. Donc, c'est ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement d'avoir beaucoup d'ambition.
Allez, c'est parti.
Bon, bah, Esther, écoute, en tout cas, c'était très chouette comme conversation parce que je parle pas assez de franchise, je trouve, sur le gratin. Et du coup, c'était un parfait prétexte. Donc, je te remercie de m'avoir posé cette question.
Bah, le plaisir est vraiment partagé. Je suis ravie et c'est vrai que ça m'a remis, on va dire, sur le droit chemin, en fait, sur mon idée de base et je vais pouvoir me concentrer vraiment sur ce que j'avais envie de faire dès le départ et pas me laisser, en fait, influencer par d'autres facteurs qui, en fait, peut-être ne me correspondent pas.
Je peux pas te dire le nombre de fois où ça m'est arrivé dans ma carrière et où je l'ai vu autour de moi. De notre instinct principal, notre intuition était en fait la bonne et qu'à un moment on se fait dévoyer parce qu'on a des personnes, mais souvent bien intentionnées, hein, c'est ça le pire, qui nous donnent, oui, oui. Qui nous donnent des conseils, qui nous font voir autre chose, mais en fait qui nous correspond pas, quoi, en réalité. Et donc on s'écarte de chemin pour finalement se rendre compte au bout de 1 an, 2 ans, parfois 6 ans, que finalement c'était la bonne chose à faire. Et le principal dans cette histoire, c'est que bah, tu finisses par te rendre compte et que tu retrouves ta voix, quoi, tout simplement.
Ben merci beaucoup en tout cas.
Merci à toi Esther et puis je te dis à très bientôt.
À bientôt Pauline.
Et voilà, terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur l'application iTunes. Et puis si iTunes, c'est pas votre truc, si Apple, vous avez pas envie d'en entendre parler, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Prenez 2-3 amis et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, ça les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à postuler aussi à la leçon du gratin si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. Donc à vous de jouer et bientôt pour une nouvelle leçon du gratin.